Bonsoir, messieurs, dames. Je ne sais pas si vous parlerez une heure ou une heure et quart, au moins. On va voir comment ça va. Comment la soirée va se passer. Alors, laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, on a Internet. Alors, on a énormément. Lorsqu'on réfléchit à un sujet, il y a énormément d'informations qui viennent déjà des connaissances personnelles. Ensuite, on ouvre le livre, et puis on... Et ensuite, alors, quand on arrive devant Internet, vous cherchez le sujet, alors, c'est tellement facile de copier, de coller, de couper-coller ou copier-coller, qu'on se retrouve avec tellement d'informations, alors on les prend. Mais je ne sais pas si je pourrais tout vous dire, parce que j'en ai peut-être pour des heures ici. Parce que, parfois, c'est des textes que je vais vous lire, et parfois, ce sont juste des idées, mais qui pourront être développées plus tard. Alors, je discutais tout à l'heure avec Madame Oslung, un autre monsieur qui était là encore, et on parlait de la place de l'homme dans la société aujourd'hui, justement, la société informatisée, où l'homme est remplacé de plus en plus par la machine. Alors, je ne suis pas dans ma conférence du tout, là, je suis dans la présentation, Jean-Monsieur. Et j'ai pensé à quelque chose que j'ai lu la semaine dernière sur le texte de la Torah qu'on a lu samedi dernier. Alors, le texte de la Torah qu'on a lu samedi dernier, c'était la rencontre entre Jacob et Ésaü, pour ceux qui connaissent la Bible, la rencontre de Jacob et Ésaü, après Jacob s'était sauvé de son frère parce qu'il lui avait volé, ben il avait volé les bénédictions sur les recommandations de sa mère, si vous vous rappelez, dans la Genèse. Et ensuite Jacob est parti chez Laban pendant 20 ans, il a travaillé pour les filles, pour ce qu'ils vont devenir ces femmes, travaillé pour acquérir du bétail. Et au bout de 20 ans, il retourne, il va y avoir cette rencontre au sommet. À l'époque, c'était le sommet, Jacob qui représentait une culture et Ésaü qui représente une autre. Et là, le texte, je ne suis pas en train de vous faire la Bible, vous allez voir. Et le texte ici dit quelque chose de pas étonnant, mais intéressant. Ésaü dit comme ça à son frère, il voit passer quatre femmes, des enfants, six enfants, énormément de monde, il dit, qui sont ceux-là? Et sur ça, Jacob répond, Bonaïhen, ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés. Ça, c'est la réponse. Les commentateurs bibliques analysent et explique le vrai dialogue qu'il y aurait eu ici entre Jacob et Ésaü. Ésaü lui dit comme ça. Lorsque notre père nous a donné les bénédictions, à moi il a donné les bénédictions de ce monde-ci, et à toi il t'a donné les bénédictions de l'autre monde, du spirituel, pas de l'autre monde, mais les bénédictions spirituelles. Et moi il m'a donné les bénédictions matérielles. Mais les enfants, eux, c'est des bénédictions matérielles, ce n'est pas des bénédictions spirituelles. Jacob lui répondant, Dieu m'a donné les enfants, c'est des bénédictions spirituelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce dialogue? Jacob dit, ce sont les enfants, c'est des bénédictions spirituelles, et pour Jacob, pour Ésaü, les enfants, c'est des bénédictions matérielles. Alors là, je vous demande, les enfants, c'est des bénédictions spirituelles ou matérielles? Alors laissez-moi continuer. Ésaü, homme de la terre, homme du travail, voit dans les enfants de la main d'œuvre. Et d'ailleurs, nous tous, la même chose. Lorsque on vivait dans une société agricole, pas d'usine, pas de Google et de WhatsApp, les enfants naissaient, venaient au monde, l'un pour la charrue, l'autre pour traire les vaches, le troisième pour filer la laine, et les familles avaient besoin de beaucoup d'enfants. Il y avait toujours un qui ne se mariait pas parce qu'il devait rester à la maison, ou une fille qui ne se mariait pas, qui devait rester, qui était le sacrifice de la famille. Hein, je parle là de mes grands-parents, c'est pas loin. Toujours un qui restait sacrifié à la maison parce que lui, il fallait qu'il s'occupe des vieux parents et qu'il s'occupe encore du travail qu'il y a parce que les autres sont partis. Et parce que les fils se sont mariés avec des filles des fermiers d'un côté, donc ils vont travailler dans la ferme d'à côté, donc il faut bien garder quelqu'un chez soi. Le nombre d'enfants était en fonction de la nécessité de la société. Et la preuve, lorsque la société s'est développée et que les machines ont remplacé l'homme, alors l'enfant devient une nuisance. Parce qu'en fin de compte, trop d'enfants, c'est la carence, c'est la taille de l'appartement, et tout le monde ne peut pas se payer une voiture 7 places ou 9 places. Moi j'ai une fille qui a 8. Je vous raconte une histoire. Il y a un gars à Strasbourg, il a 16 enfants. Alors il a pris dans sa voiture, un peu grand, il a pris dans sa voiture 8 plus 2. Il était 10 dans la voiture. Alors il se fait arrêter par un gendarme qui lui dit, mais le gendarme lui dit, monsieur, regardez, vous êtes 10 dans la voiture, vous auriez pu prendre la moitié de vos enfants. Ah, le gars dit, mais c'est la moitié. Alors, histoire vraie, le gars dit, bon, écoutez, allez-y. Alors, aujourd'hui, le gars il s'appelle Blue, en plus, comme Et donc, aujourd'hui, les enfants sont plus, on les a pas besoin pour la société, pour le travail. Puisqu'il n'y a pas de travail. Alors, donc aujourd'hui, on est passé de familles nombreuses de 5, 6, 7 enfants, qui est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, on passe à 1, comme dirait Coluche, je ne sais pas où est la virgule, hein, voilà. Et moins d'enfants. C'est ici le travail. Dans les familles religieuses juives, orthodoxes, la moyenne, par exemple, la ville qui a été faite avec ma fille, la moyenne, ça vous ferait 7-8 enfants. Moyenne. Et eux, ils ne travaillent pas, en plus, puisqu'ils étudient. C'est parce qu'eux considèrent qu'il faut amener des enfants au monde, pour peupler le monde, et pour faire descendre l'âge un peu plus spirituel, pour descendre les âmes dans le monde, et donc la naissance de l'enfant impute dans sa naissance lui-même elle-même, sans avoir besoin du travail. Et ça, c'est le dialogue entre Ésaü. Ésaü lui dit, mais les enfants, c'est le matériel. Jacob lui dit, non, les enfants font partie du spirituel, donc moi j'ai une grande famille parce que je veux amener les enfants au monde pour construire un peuple dans la spiritualité. Et Ésaü, il dit, mais non, il n'y a pas besoin. Vous voyez, ça c'est déjà la différence qu'il y a entre les deux. Donc ça, quand on discutait de ça, je vous ai dit, j'ai trouvé une entrée pour le... J'avais une autre, mais j'ai trouvé une entrée pour la conférence, où est-ce que... Quelle est la place... Cette place des enfants dans le monde du travail. Ok. Le travail a longtemps été considéré comme une corvée, voire comme une malédiction. Je reviens maintenant très très loin en arrière. La civilisation, alors ça ne vient pas de moi, c'est des notes que j'ai trouvées. Suivez-moi, je vous le dirai déjà. La civilisation gréco-romaine voyait dans le travail une activité inférieure qu'il fallait abandonner aux esclaves. Alors ça ne vient certainement pas de moi. Étymologiquement, le mot travail vient du latin tripalium, sorte d'instrument de torture à trois pieds. Chez nous, on disait Dreyfus. Travailler signifie peine et malheur, un passage obligé pour se nourrir, se vêtir et vivre sous un toit. C'est des trucs que j'ai trouvé. Selon certains historiens, ce n'est qu'à partir, je suis toujours dans l'introduction de ma conférence, vous comprenez, je ne suis encore pas dans mon sujet. Selon certains historiens, ce n'est qu'à partir de la Renaissance que l'on trouve des idées nouvelles sur l'idéal que le travail pouvait représenter, une voie d'accès à l'authenticité et à la gloire. À la fin du XVIIIe siècle, dans les écrits de penseurs tels que Benjamin Franklin, Denis Diderot ou Jean-Jacques Rousseau, le travail devient une façon de s'accomplir et fait naître un sentiment de fierté. Travailler et fierté. Thomas Jefferson, toujours pas moi, troisième président des États-Unis d'Amérique et rédacteur de la Déclaration de l'Indépendance, est l'un des premiers à introduire la notion de mérite au travail avec une apologie de l'effort. Au XIXe siècle, la notion de travail s'inscrit comme une vertu à promouvoir. Il est alors considéré comme l'acte d'expression et de création de l'intelligence humaine, source d'épanouissement individuel et outil majeur de civilisation. Alors, contrairement aux idées reçues, que je viens de vous dire maintenant, dans le judaïsme, le travail n'est pas la conséquence d'un châtiment divin qui ferait suite à la faute originelle. Parce que, si vous regardez le texte, Adam va manger le fruit défendu que lui donne sa femme. Et cet homme-là, en plus, en passant, il va accuser sa femme. Au lieu de prendre la responsabilité sur lui, on est tous les mêmes, la responsabilité sur lui, il va dire, au lieu d'être reconnaissant que Dieu lui a donné une femme, on est tous reconnaissants, n'est-ce pas, cher monsieur? Eh bien, il va lui dire, c'est elle qui m'a donné. Elle qui m'a donné. Alors ça, c'est... J'ai un peu d'habitude comme ça d'une déformation, de penser à autre chose comme ça, mais je reviens toujours... Vous savez, quand on étudie le Talmud, c'est comme ça que ça se passe. Le Talmud, je ne vais pas déparler des Talmud maintenant, mais ça vraiment, commence toujours à la page numéro 2. Il n'y a pas de page 1. Il y a page 2. Dans chaque traité du Talmud, ça commence à la page bête, à la page 2. Et c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous êtes toujours au milieu. Vous n'êtes jamais au début. Vous êtes toujours au milieu parce que, quelle que soit la page du Talmud, vous pouvez être envoyé comme ça. Et quand on étudie des années de Talmud, et surtout les années que j'ai passées à la Yeshiva, donc des études de Talmudique, vous pouvez passer d'un sujet à l'autre, qui ont strictement rien à voir, et après on va trouver pourquoi, quel est le lien. Ce qui fait que dans mon développement de l'esprit, je peux penser à quelque chose, quand je suis en train de penser noir, je peux penser rose, ou vert, ou rouge, parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait penser. Et ce qui fait que les talmudistes, quand ils deviennent des informaticiens, sont très forts, parce que notamment dans l'informatique, où il faut penser, lorsqu'on vous demande de créer une application, de quelque chose comme ça, eh bien, souvent les gens ont l'esprit linéaire. On n'est pas du tout dans mon sujet, hein, mais c'est en fait. Souvent les gens ont un esprit linéaire, ils voient tout droit, alors on dit voilà, trouve-moi le chemin pour aller jusque là-bas. Et arrivant à réfléchir, comment tout droit. Et l'esprit talmudique va faire qu'on va regarder toutes les autres options en même temps pour arriver là-bas. Mais toutes ces autres options, qui ne sont peut-être pas toujours nécessaires, elles vont vous permettre d'analyser pourquoi là c'est mieux. Et c'est pour ça que mon esprit à moi, tout simplement, c'est comme ça. Je peux passer comme ça d'une chose à l'autre, mais c'est une déformation de mes études. Voilà. Pourquoi je vous ai raconté ça, je ne sais plus. Mais, oui. Donc, Dieu dit à Adam, parce que tu as mangé du fruit défendu, ronces et broussailles seront, la terre sera, quelque chose comme ça, je ne vais pas l'oublier maintenant, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Et tu devras travailler la terre pour gagner ton pain à la sueur de ton front. Alors nous, on a toujours compris, jusqu'à ce que je suis tombé sur ce sujet, on a toujours compris que, punition de Dieu, il faut travailler. Mais c'est faux, et on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble dans le texte. En effet, dès la naissance d'Adam, c'est-à-dire bien avant la faute, la Torah précise, l'Éternel le plaça dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. On n'est pas à la faute, on est bien avant la faute. L'Éternel place Adam dans le jardin pour le travailler et le garder. On a nous travaillé déjà. Pour le travailler et le garder, ce qui nous conduit à penser que dès l'origine, il n'était pas le oisif et qu'il participait à l'harmonie du jardin d'Éden. Après la désobéissance, Dieu dit à l'homme, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Donc, deux périodes différentes. Et on va parler longtemps tout à l'heure pour le travailler et le garder. Comment travailler le champ ? On va demander à votre arrière-grand-père. Alors j'anticipe sur ce que je dirai plus tard, mais je ne peux pas m'empêcher. Qu'est-ce que vous demandez à votre grand-père, qu'est-ce que c'est ? Il vous dira, vous prenez la charrue, vous prenez la faux, vous prenez la bêche, et vous travaillez dans votre champ. Demandez à nos enfants, c'est quoi travailler le champ ? C'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Ça veut dire que, on était plus que ça. Le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Mais comment on travaille un champ ? Je redirai après dans le texte, mais je le dis déjà en avance. Travailler un champ. Vous avez besoin de créer des machines. Parce que je veux dire, le travail. Quand la Torah dit de travailler le jardin d'Éden, on ne va pas vivre toujours dans le jardin d'Éden, il va sortir du jardin d'Éden. Il va sortir du jardin d'Éden, il va aller dans le monde travailler. Auquel le premier jour, il prendra, je sais pas, il va inventer des outils, il va prendre quelque chose pour aller travailler. Mais ensuite, c'est quoi travailler la terre ? Toutes les études que vous allez faire, l'ingénieur dans l'agriculture, celui qui va être dans la mécanique, celui qui va être en fonction des époques, bien sûr. Tout ça rentre dans le monde pour le travailler, le garder. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qui concerne le travail, la Torah le précise déjà, Dieu dit à l'homme, tu vas devoir travailler la terre avec tout ce que ça comprend, avec tout ce que ça comprend. Ça comprendra de la physique, ça va se comprendre de la chimie pour les produits, comme on appelle ça, phytosanitaires. Tout ça va rentrer, selon ces commentateurs, tout ça va rentrer pour le travailler et le garder. Ok ? Lorsque l'Éternel, Dieu, fit une terre et les cieux, aucun arbuste, aucun champ n'était encore sur la terre, je lis un texte, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Encore un autre texte, toujours avant la faute, on est dans les jours de la création. Mais une vapeur s'éleva au-dessus de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ensuite, le texte continue, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, à vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, il n'y avait personne pour travailler la terre avant la naissance de l'homme, hein, dans ce texte. Puis l'Éternel, je suis en train de vous montrer une chronologie ici. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin de la connaissance, de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin, comme je viens de vous dire, pour le cultiver et le garder. Ça c'est mon deuxième, c'était le premier exemple que j'ai donné avant. Cultiver implique un nombre considérable d'actions, la préparation, le retournement de la terre, les semailles, un autre retournement de la terre, la patience de la montée de la sève, la patience du bourgeon, de la fleur et du fruit, le temps de la récolte, faucher, lier, transporter, engranger, toute une philosophie dans le temps. Cultiver, c'est aussi la nécessité de prendre en compte en exigeant un ensemble de facteurs complexes comme les connaissances des vents, des nuages et des pluies, de l'ombre et de l'ensoleillement, de la nature des sols. La nature des sols, pour les bons vins d'Alsace, vous savez, comme le vin de Cannes n'est pas le même vin que celui de Ribeauvillé, vous savez, n'est-ce pas ? Des espèces différentes des plantes, des fruits, des céréales, de l'importance des insectes, avec les produits qu'on a en ce moment au niveau européen qu'ils sont en train de discuter, sans oublier les animaux qui seront convoqués pour ce travail, et ça, donc les vétérinaires inclus, tout ça, et sans oublier la créativité sollicitée pour inventer des outils divers pour faciliter cette culture. Tout ça rentre dans travailler. Donc quand Dieu il a ce projet, je ne raconte pas tout ça.
Dieu, quand il a le projet de l'homme d'un travail de la terre, c'est tout le travail que le monde fournira jusqu'à aujourd'hui qui rentre dans l'obligation que Dieu donne à l'homme. Et ce n'est pas une malédiction, c'est dans le projet divin. C'est cette phrase que vous devez retenir. Cette phrase que vous devez retenir. Le projet divin, c'est que l'homme étudie les maths, que l'homme étudie les lois de la nature, que l'homme étudie la physique, pour pouvoir faire travailler sa terre, et travailler sa terre, c'est-à-dire pour nourrir les gens qu'on voulait travailler. Alors, vous comprenez comme une chose avec une autre, tout ça rentre dans le projet divin et n'est certainement pas une malédiction. On pourrait croire, il faut travailler. Cette décision divine perçue comme un supplice pour l'homme a subi une assimilation sensible, Dieu en a fait sortir un bienfait, car l'homme peut trouver une satisfaction à demeurer autonome et indépendant. Parce qu'en fait, donc, si je travaille, je n'ai pas besoin de schmarrn, hein, comme on dit en latin. Ah oui, en yiddish. Donc l'homme accepta le travail sans rechigner et l'assuma sans désolation. Et là, la prochaine phrase que je dis, c'est très chouette. Généralement, l'homme est présenté dans la Torah comme le partenaire de Dieu dans le processus de sa création et de sa pérennité. L'homme est partenaire de Dieu dans la création, comme je vous le citais par un texte de Talmud extraordinaire. Rabbi Yehuda Hanassi commence le verset, c'est celui que j'ai choisi comme sujet ce soir. 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu cesseras toute création. Par Israël a reçu l'ordre de travailler 6 jours durant, au même titre de celui de se reposer le jour du Shabbat. L'obligation, 6 jours de travail, là maintenant, j'ai quitté le texte de la création, mais je suis allé à propos du Shabbat, 6 jours tu travailleras, commandement positif de travailler, donc c'est un commandement de travailler, comme déjà Dieu l'avait déjà donné à Adam, et le 7e jour tu te reposeras. L'obligation du repos, on va voir tout à l'heure ce que signifie le repos. Le Midrash raconte, ça je ne peux pas vous dire parce que je me rappelle de tout ça, mais j'ai besoin de voir. Le Midrash raconte qu'un païen du temps, ça j'ai trouvé dans le Talmud par contre, qu'un païen du temps du nom de Turnus Rufus demanda à Rabbi Akiva, écoutez bien, ça c'est super intéressant, lesquelles d'entre les œuvres de Dieu et celles des hommes étaient les plus belles? Qu'est-ce qui était plus beau? La création de Dieu ou la création de l'homme? Rabbi Akiva y répond, ce sont celles des hommes qui sont les plus belles, lui répondit Rabbi Akiva. Ce que l'homme a créé est plus beau que ce que Dieu a créé. Il a dit, il blasphème, hein, vous allez voir. Pourtant, répliqua Turnus Rufus, le ciel et la terre, l'homme a-t-il les moyens d'en créer des semblables? Bonne question. Est-ce qu'un homme peut créer le ciel et la terre alors que Dieu... Alors comment tu peux dire que la création de l'homme est plus belle que celle de Dieu? Alors il lui répond, ce que vous aurez pu me dire, ne me parle pas de choses qui se situent au-delà des créatures et qui ne peuvent être maîtrisées par l'homme, parce que le ciel et la terre ne peuvent pas être maîtrisés par l'homme, ça c'est bien sûr, c'est pas ça qu'on discute. Parle-moi plutôt de ce qui lui est accessible à l'homme. Puis Rabbi Akiva lui apporta des épis de blé accompagnés de petits pains. Il a mis à côté des épis de blé, et de l'autre côté, il a mis des petits pains. Et lui dit comme ça. Voici d'un côté l'œuvre de Dieu, les épis de blé. Tu plantes le grain, et puis hop, tu as du blé. Et de l'autre, tu as les petits pains fabriqués par le boulanger du bois. Tu ne trouves pas ceci, les petits pains, plus beaux que ça, que les épis de blé. Les épis de blé, c'est brut. Le pain, le vin. Et bien sûr. L'homme a donc pour mission de réaliser... On parlait des partenariats entre l'homme et Dieu. L'homme a donc pour mission de réaliser le monde créé par Dieu en y introduisant la dimension d'action qui le fait vivre. C'est-à-dire l'homme, Dieu vous donne le matériel et à vous de le développer. Tout ce qui fut créé lors des 6 jours du commencement nécessite une action complémentaire. Alors j'ai pris quelques exemples que j'ai trouvé comme ça, mais
pour dire n'importe quoi, j'ai pris parce que je, sur ce texte d'Agmara, du Talmud. Il faut par exemple adoucir la moutarde ainsi que le lupin, le pain doit être moulu et l'homme lui-même doit se parfaire, comme ça dit le Midrash. On comprend que l'un ne va pas sans l'autre. La contribution de Dieu et celle des hommes sont nécessaires à la réalisation de l'œuvre divine. L'œuvre divine, c'est pour que vous mangiez demain matin du pain. Mais il ne va pas vous apporter le pain sur la table, il vous apporte le blé, en tous les cas, il vous apporte la force dans la terre pour faire pousser le blé, mais tout reste, c'est à l'homme de le faire, pour jusqu'à ce que vous ayez votre pain. Si vous demandez aux jeunes aujourd'hui, quand c'est dans les grandes villes, qui n'ont jamais vu une vache, qui n'ont jamais vu un champ, ils vous leur demandent, tu sais comment ça vient le croissant sur ta table? Ça fait. En tout cas, à nous, parents, de leur rappeler, de leur dire que les choses viennent. Alors après, vous arrivez, vous rentrez la notion de Dieu. Vous dites, Dieu, il s'arrête là, et il ne s'arrête pas, mais dans la création, il vous amène jusqu'au champ, et ensuite, c'est l'homme qui a pris le relais. Mais ça, c'était la volonté de Dieu, de ce partenariat entre Akadosh Baruch Hu, entre Dieu et l'homme, pour arriver avant notre petit croissant sur la table. Dieu apporte les ingrédients qui ne peuvent se suffire tels quels, charge à l'homme de s'engager dans une réelle responsabilité de les faire vivre. La volonté de l'homme vit dans les Avot Rabinatan, encore un texte talmudique, impose à l'homme de bâtir la planète. C'est alors qu'il sera possible de faire de ce monde une demeure pour la divinité, non seulement pour le bien de l'humanité présente, mais aussi et surtout pour l'humanité qui suivra, parce qu'on n'est pas... Il faut réfléchir plus loin qu'aujourd'hui. Semer, par exemple, c'est témoigner de sa foi en la vie éternelle. Pourquoi je sème? Je ne sais pas ce qui va se passer demain. C'est donc par le fait d'agir pour la survie de la nature et de la continuité de la vie sur Terre qu'on participe ainsi à l'œuvre divine. Il y a une magnifique histoire dans le Talmud, ou c'est dans le Midrash, je ne sais pas, le Midrash, je ne sais plus exactement. Il y a quelqu'un qui voit un vieil homme qui plante un arbre. Vous savez que maintenant ça prend pour mettre une graine d'un pommier dans votre jardin. Je ne sais pas combien d'années jusqu'à ce que les premières pommes sortiront. Alors il lui demande, mais à quoi ça te sert de planter l'arbre? Tu vas mourir. Tu ne verras pas tes fruits. Et là, qu'est-ce qu'il répond vieillant? Ce que vous aurez tous répondu. Je ne travaille pas pour moi. J'ai confiance dans l'avenir. Je travaille pour mes enfants. Je travaille pour mes petits-enfants. C'est-à-dire que nous, on a la responsabilité de développer pour les autres. Si vous avez des questions au milieu, vous pouvez. Hein. C'est peut-être plus simple que d'attendre à la fin et après on aura parlé pendant 1h30. Et ensuite, on saura même plus ce qu'on en parle. Si vous avez quelque chose, je marche très bien comme ça. Si vous avez quelque chose à... une remarque, même une remarque, une contradiction, une question, une précision, vaut mieux faire tout de suite, si ça ne vous dérange pas. Mais maintenant, dans le travail, on a compris que c'est important, le travail c'est bien, le travail... on a compris. Maintenant, on va parler un peu de repos aussi. Le travail comme le repos participe donc du bon équilibre de l'homme et de son nécessaire dévouement pour Dieu. Alors je reprends encore, la valeur du travail et la dignité qu'elle procure sont vantées par les ramas du Talmud, grand est le travail, car il honore ses artisans, et ça c'est marqué dans le traité de Nezarim, dans le traité de Avot c'est marqué, aime le travail, donc ça on voit bien la considération que la Torah donne au travail. Alors c'est sûr qu'il y a des discussions dans les Talmud là-dessus, il y a beaucoup de discussions dans les Talmud là-dessus. Est-ce qu'il faut se consacrer plus à l'étude de la Torah? Est-ce qu'il faut se consacrer plus au travail? L'étude de la Torah et toute la spiritualité qui va avec.
C'est contradictoire.
Non, c'est pas contradictoire, je vous explique. L'idéal, alors vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup plus que ce que je peux vous dire ce soir. J'ai énormément plus. Mais si je m'arrête à la page 25, je m'arrête à la page 10, là j'en suis 4, 6. Et je m'arrête à la page 10, ça ira aussi. parce que il y a des choses que je ne veux pas passer à côté. D'ailleurs, je les ai écrits, ouais, comme ça j'ai mis en italique ce que je peux laisser second lieu, qui est fondé dans un peu. Mais vous savez, quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais qui va nous prendre quelques minutes. Mais c'est pas grave, je vous ai donné ben, la notion principale du travail, je vous l'ai donné. Ça, je pouvais en fait fermer mon livre et on pourrait partir maintenant rejoindre le concert en bas. On pourrait. Mais d'un autre côté, Madame Osloon, comme à son habitude, elle est toujours au pied du four. Le temps de la réforme, Mendelssohn, combien? 2 siècles environ à peu près? Un peu plus. En Allemagne, il y avait 2 mouvements du judaïsme. 2 mouvements du judaïsme. Il y avait les réformés, Joseph Mendelssohn, qui ont considéré que c'était plus, il n'y avait plus l'obligation du retour à Israël, que Berlin était devenu leur Jérusalem, si vous voulez. Je schématise, je vais très vite, hein, que Berlin était devenu leur Jérusalem. Ils ont à tel point qu'ils ont sorti des livres de prière, tout ce qui avait référence à un retour en Israël, et ils étaient totalement assimilés. Comment ça s'était passé? Les premiers juifs sont sortis des ghettos, et en fil allemand, etc. On n'est pas le sujet de ce soir. Mais en tous les cas, ils s'étaient pas intégrés en Allemagne, ils s'étaient assimilés totalement à l'Allemagne. Oui? Pas non.
C'est le mouvement de la
Scala. Oui, totalement assimilé à l'Allemagne, à tel point que la fille de Mendelssohn s'est donc mariée à la cathédrale, hein, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Et plus de spiritualité et plus de Torah. D'un autre côté, vous aviez le mouvement de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Lui, il va. Alors au début, regardez, moi c'est religieux, qui étudie les vieux livres, les réformés disent, ils étudient les vieux livres, ils sont attachés à leur histoire d'il y a 2-3 000 ans, et la modernité, on parle déjà de modernité à cette époque-là, et donc on méprisait beaucoup le monde du religieux. Bien, alors là il y avait donc le monde du travail, et le monde religieux, qui ne travaille pas. Vient Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, et il crée un mouvement qui existe encore aujourd'hui. Il crée un mouvement qui s'appelle Torah ve'avoda. Torah et travail. Torah, étude de Torah, pratique de Torah, respect de Torah, et avoda est dans le travail. Et l'homme est complet, d'après lui, l'homme est complet s'il étudie pour étudier, il fixe des heures d'études de Torah, il fixe des heures d'aller à la synagogue pour prier, et il fixe des heures pour travailler pour gagner sa vie. Ensuite, il va montrer, ça c'est pour la parenthèse, ça n'a rien à voir, il va montrer tous les trésors cachés dans la Torah, la nécessité d'être... De compréhension intellectuelle de la Torah, que la Torah c'est pas simplement que Dieu a créé Adam et puis Moïse a sorti les enfants d'Israël, c'est bien plus que ça. Et donc il va écrire des livres très très pointus, et que les gens vont penser, ah bon, il y a quelque chose dans le texte biblique. Bon, ça c'est, mais il va surtout créer ce milieu, ce mode de vie, Torah Verboda. Il était rabbin à Francfort. La communauté de Francfort va se constituer autour de lui des gens qui travaillent toute la journée, quel que soit leur métier, vont travailler toute la journée, et le matin vont aller à la synagogue, le soir ils vont faire une heure d'études, l'autre il fera l'étude une heure avant. Cette synagogue de Francfort a eu, d'autres en ont pris l'exemple, et elle va se retrouver à Zurich, à la Yargue à Zurich, elle va se trouver à la Yargue à Bâle, elle va se retrouver dans la synagogue de Rav Shimon Schwab à New York, elle va se retrouver dans toutes ces communautés, vous allez dans les communautés à Zurich, les gens ils étudient, c'est pas des, ils vont pas passer leur journée entière à étudier, ils vont gagner leur vie, ils vont avoir tous les métiers que vous voulez, je parle d'aujourd'hui, hein, tous les métiers que vous voulez, mais ils vont consacrer également du temps à l'étude de la Torah. Donc ils vont mélanger, ils vont pas mélanger, ils vont combiner voilà, l'étude de la Torah, la pratique religieuse avec le travail, et les deux ensemble, l'idéal, pour ce que dirait le psaume, l'idéal consisterait à combiner les deux, l'étude de la Torah et une profession, car lorsque c'est du labeur de tes mains, tu mangeras, tu seras heureux, tu posséderas le bonheur parce que tu travailleras, tu mangeras ce que tu as travaillé, et d'un autre côté, tu auras aussi passé tu te consacreras à l'étude de la Torah, et avec ça, la personne sera complète. Et quand il y a quantité de textes dans les Talmud et surtout dans les Maximes des Pères, on montre l'importance du travail et des études. Alors vous allez me dire, si je parle tellement de travail et d'études, pourquoi vous avez des milliers de gens qui étudient la Torah en Israël et ailleurs, et qui ne travaillent pas? Monsieur Blum, je vous ai vu dans vos yeux.
Parce que ce sont leurs femmes qui travaillent à la
place. Non, mais d'accord, ok, c'est leur choix. Exactement. C'est leur choix. Non, mais c'est pas ça. Je vais pas dans ce...
C'est ça.
Oui, mais c'est pas ça que je parlais.
C'est ça.
D'accord. D'accord. C'est un couple, c'est un choix, c'est pas une obligation, c'est un choix. Alors je vous réponds de genre, c'est pas sur ça que je fais. Non, vous allez bien comprendre. Vous avez des filles qui cherchent, qui disent, écoute, moi je veux un mari qui étudie pendant des années, moi je t'en vais pour lui. C'est comme ça que ça se passe, sinon elle ne comprend pas.
Jean.
Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose.
C'est
qui choisit
que de
marier le mari. Bien sûr. Mais c'est pas ça le but de mon intervention.
La femme, c'est quand?
Non, le même jeu. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est autre chose. Ce que je vais vous dire, pourquoi vous avez des gens qui étudient, je ne veux pas répondre à cette question-là. Non, je peux répondre, bien sûr, mais pourquoi vous avez des gens qui étudient si longtemps alors qu'ils travaillent? Alors que du temps des Talmud, le Rabbi Akiva, j'ai cité, Rashi, qui était vigneron, l'autre il était Rabbi Yochanan à Sandela. Rabbi Yochanan, un des grands maîtres des Talmud, cordonnier. Maïmonide, il était médecin. Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils étudient, ils ne travaillent pas? Alors que tout cela, dans le temps, ils travaillaient pour étudier. La réponse, elle est très simple. C'est que pour atteindre, il faut dans toutes les cultures et dans toutes les générations et partout, il faut des élites dans un sujet, dans un domaine. Si tout le monde travaille, si tout le monde travaille et ne passe pas, écoutez, c'est très simple. Vous avez des mecs qui sont au CNRS, qui sortent pas de leur laboratoire jusqu'au jour de leur mort. Vous allez demander, mais est-ce qu'ils travaillent ces gars-là? Ils font rien, ils font de la recherche. Eh bien, ces gens qui étudient le Talmud et qui vont développer des lois d'aujourd'hui, ce sont des chercheurs qui développent leurs connaissances parce qu'il faut au moins un noyau de gens qui soit pointu dans ce sujet pour ensuite pouvoir le diffuser ailleurs. Alors on va râler, excuse-moi madame Monflon, et je vous attaque, on va râler sur ceux qui passent 40 ans dans une échelle, mais qui écrivent 50 livres, et on va dire, les gars du CNRS, oh purée, c'est des prix Nobel.
Comment on juge une université? Par le nombre de publications.
Non, absolument.
Hein, le nombre de chercheurs. Mais moi je pense quand même qu'il y a un gros pourcentage de ceux qui sont dans les yeshivot qui ne produisent rien, qui n'écrivent jamais rien.
Vous avez raison, et au CNRS aussi. Mais vous avez raison, tous les milieux, madame, on est en train de laver notre linge sale en famille, je suis fier de ce que je dis, vous savez, pourquoi je veux dire,
Non, mais c'est
important. Ça veut dire quelque chose. L'orgueil, madame, je veux dire quelque
chose. Le sujet du travail, c'est à moi, quelque chose de
très important. L'orgueil, et c'est bon à vous dire. Avant que je vous dise la prochaine chose que je vous dis. L'orgueil, ou l'humilité, c'est pas de dire je suis rien du tout. L'orgueil, c'est de dire je sais tout.
Bravo.
Attends. Mais l'humilité, c'est aussi, et c'est surtout de dire je sais beaucoup, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors, laissez-moi vous dire, moi, j'ai passé 14 ans dans les écoles talmudiques, et je sais beaucoup. Mais je ne le dis pas par orgueil, je le dis parce que pour vous montrer. Mais si je n'avais pas étudié 14 ans, alors que ma femme travaillait pendant quelques années, si je n'avais pas étudié 14 ans, je n'en serais pas là. Quand j'ai commencé mon métier à 31 ans, j'avais étudié jusque 31 ans. Bon, les premiers postes, j'avais déjà commencé à partir de 25-26 ans. Mais disons, mon vrai poste, c'était Mulhouse, le plus grand. C'était 31 ans. À Glasgow, c'était un petit peu comme ça, de bafouillement dans les premières erreurs que j'ai faites dans mes premiers discours. Mon premier enterrement, j'étais tout seul avec la dame qui a enterré son mari. J'étais en train de trembler comme ça. Ça, c'était à Glasgow. Et 14 ans, j'ai étudié et j'ai beaucoup appris. C'est pas de l'orgueil. Je dis pas en tant qu'orgueil. Je dis parce que pour lui répondre, selon, pour lui répondre, c'est pas ce que j'ai étudié. Si ma femme n'avait pas laissé le temps, elle m'aurait dit, va tout de suite à l'usine. Ben jamais je me serais développé. Jamais je me serais développé. Jamais. Jamais. Il y a un docteur à Mulhouse, qui est chef de service aujourd'hui. Il a commencé avec moi, attendez, il était, lui, sa femme travaillait pour lui. Lui, il avait, qu'est-ce qu'il avait, je ne vais pas dire son nom. Vous connaissez très bien. Qu'est-ce qu'il avait comme truc à l'interne à l'hôpital? Il n'avait même pas coloré ses enfants. Sa femme travaillait. C'est vrai, elle travaille. Elle était donc à travailler à Strasbourg, elle faisait tous les jours le chemin, les enfants. Et lui, il devient chef de service et grâce à sa femme, n'est-ce pas? Parce qu'elle lui a permis de travailler. Si elle lui avait dit, oh, écoute, laisse tomber tes études de médecine, va faire infirmier. Ben, hein?
Mais c'est temporaire.
C'est temporaire. C'était temporaire.
Il y a des étudiants de Yeshiva.
Alors il y a les deux. Vous avez raison, il y a des parasites partout.
Ah,
mais comme je vous dis.
Ah, quand même.
Mais bien sûr, je suis là. Mais je dis au CNRS aussi. Ok, let's. Le travail de... Je suis au début de ma conférence, franchement, il y a 42 minutes.
Non, mais ça fait rien.
Le travail dans le judaïsme a depuis longtemps été réglementé. Un travail sans contrôle peut se transformer en aliénation, voire en esclavage. C'est justement cela qu'a voulu éviter la tradition juive. L'homme qui aime son travail a toutes les chances de le faire avec dévouement et le fera le mieux possible. Le travail fait avec plaisir, d'une certaine manière, rapproche l'homme de Dieu. Avoda, travail en hébreu, signifie aussi service divin. Quand on dit servir Dieu, c'est avoda, exactement le même mot. Servir Dieu et travailler, c'est le même mot. Le travail ainsi pensé devient un mouvement pour une libération. Et maintenant, on arrive au Shabbat et le travail. Avec le Shabbat, on va comprendre mieux le travail et on va comprendre mieux le repos. Vieille depuis plus de 3000 ans, l'institution du Shabbat, loin d'être devenue archaïque, occupe encore une place centrale dans la pensée juive et plus largement, conserve toute sa signification pour le monde d'aujourd'hui. Donné aux hommes et aux femmes rassemblés au pied du Sinaï, le Shabbat est proclamé dans le 4e commandement du Décalogue. Cet événement fondateur a suscité par la suite une abondante législation biblique, talmudique et rabbinique, ainsi que d'innombrables commentaires et questionnements, parce que la Torah se dit simplement, le Shabbat tu te reposeras, mais rien de plus. Et si, c'est marqué, vous ne ferez pas de feu. L'autre va au Hesh, le Chol Moshe Techem, le Chol Shabbat, vous ne ferez pas de feu. Anil Tse'ish Mim Komo, Beyama Shabbat, qu'un homme ne sort pas de sa place le jour du Shabbat. Alors, ça n'est très élitique ce qui est marqué dans la Torah, s'il n'y a pas les textes qui ont été écrits plus tard, une tradition orale qui a été transmise, on ne comprenait pas ce que c'est. Ce que ça veut dire, ne pas sortir de sa place, c'est quoi sa place? Sa ville? Je n'ai pas ressorti de mon pays, je n'ai pas ressorti de ma maison, je n'ai pas ressorti de ma chambre, je n'ai pas ressorti de mon lit, que ça veut dire quoi sa place? La place où tu étais vendredi, ça veut... Non, il y a une législation là-dessus. Tu ne feras pas de feu, ça veut dire quoi, tu ne feras pas de feu? Tout ça, c'est une législation, parce que tu ne feras pas de feu, vous savez, dans le... Faut que je vous dise ça en passant. dans le... La tradition orale, c'est donc Dieu qui transmet à Moïse la Torah et qui va lui donner le mode d'emploi. C'est la tradition orale, et après quand les juifs, les rabbins ont vu que les juifs vont être disséminés partout et que les exils vont arriver, ils ont préféré tout mettre par écrit, ce qui s'appelle la Torah orale. Elle s'appelle orale, mais elle est écrite, alors que la Torah écrite, c'est pas ça. Et il va y avoir une secte de juifs, à l'époque, qui s'appelle les Karaïtes, qui vont refuser la Torah orale, et qui vont utiliser uniquement la Torah écrite. Pourquoi je vous raconte ça, pour vous expliquer. Par contre, pour montrer la législation qu'on retrouve dans le Talmud. C'est marqué, tu ne feras pas de feu le jour du samedi, le jour du Shabbat. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne font pas de feu. Alors maintenant, aujourd'hui, l'électricité, parce que dans l'église, il y en a encore. Ils ne font pas de lumière. Ils mangent froid. Ils ne font pas de feu. Et ils n'appliquent qu'à la lettre. Nous, on dit, ben nous, les pharisiens, notre tradition dit, tu ne feras pas de feu, mais si tu fais le feu le vendredi et tu laisses allumer le samedi, c'est pas un problème. Tu veux manger chaud et ça cuit depuis vendredi, c'est pas un problème, tu laisses la lumière là. Donc, l'interprétation, c'est pour vous montrer qu'il va y avoir des interprétations rabbiniques qui vont expliquer comment appliquer la loi. C'est ce quand on parle d'innombrables commentaires et questionnements et législations là-dessus. Je vous donne un exemple. Un exemple, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous avez tous un frigidaire ?
Non.
Quand vous ouvrez la porte du frigo, qu'est-ce qui se passe ? La lumière s'allume. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'elle s'allume ?
Un petit
bouton. Oui, un petit bouton. Il y a un clapet. Quand vous fermez la porte, le clapet crée un contact et la lumière s'éteint. Lorsque vous ouvrez la porte, je ne suis pas en train de vous apprendre à baisser, vous allez comprendre pourquoi je raconte ça. Vous ouvrez la porte, le clapet s'ouvre, et j'étais à Méribel l'année dernière dans l'appartement de location. Arrive vendredi après-midi, moi je fais, bon, alors comment je fais? Bon, je vois la maison, j'enlève l'ampoule, il n'y a plus de problème, mais dans un appartement de location, c'est compliqué. Un peu ce que je fais, je prends le clapet, j'appuie le clapet, je prends une allumette, que je coupe en deux, hein, je fais en quatre, je coupe une allumette, je range l'allumette dans le clapet, il se bloque dans la porte, elle reste une fois éteinte. Et là, j'arrive à Méribel, et je cherche le clapet. Eh bien, figurez-vous, mes chers amis, dans les ordinateurs, dans les frigos d'aujourd'hui, il n'y a plus de clapet. Il n'y a plus de clapet. Il y a une institution du Shabbat en Israël. On n'est plus dans le sujet, mais ça fait rien, c'est pas grave, c'est intéressant quand même. Hein, ça vous dérange pas? Hein? Il y a une institution en Israël qui s'appelle l'institution du Shabbat. Comment faire qu'on puisse utiliser quelque chose de Shabbat sans enfreindre la loi du Shabbat? Alors ils se sont plongés sur le sujet. Alors ils ont demandé à certains constructeurs comme Liebherr par exemple ou Samsung. Ils leur ont demandé de faire quelque chose qu'on puisse régler le Shabbat pour qu'elle soit sur le Shabbatique. Mais vous avez un studio à la maison, je vais l'acheter il y a quelques semaines. Vous devez le faire. Alors ils ont trouvé un système de génie. Ils ont trouvé, ça c'est jamais de génie, c'est le fait d'y penser, c'est toujours un petit truc que tu ne comprends rien, hein, ça, et qui, ils ont trouvé quelque chose que vous posez tout simplement, une chose magnétique, que vous posez entre la porte et l'endroit, et chaque frigo il a son senseur ailleurs, donc les marques ils les connaissent, chaque frigo, alors tu places ce truc là-dessus, le frigo il pense que c'est toujours fermé, et même que la porte est ouverte, il pense que c'est fermé, ça ne s'allume pas. Ah oui, aujourd'hui, vous avez des instituts, des gens qui ont étudié des années le Talmud, accompagnés d'ingénieurs à côté d'eux, d'ingénieurs, ou de mécaniciens ou de techniciens qui connaissent les machines, quelles que soient les machines, qui connaissent les machines, et ensuite, ils vont leur dire, bon, voilà, la solution. Aujourd'hui, vous leur téléphonez à Sommet, celui qui a fait l'ascenseur sabbatique de Mulhouse, la synagogue de Mulhouse. L'ascenseur chabatique, c'est quoi l'ascenseur chabatique? Quand j'appuie sur un bouton, l'ascenseur, je fais marcher l'ascenseur. Il faut que l'ascenseur il marche tout seul, j'ai pas le droit, Shabbat, d'appuyer sur le bouton. Maintenant, quand, même si j'appuie pas sur le bouton, l'ascenseur, du moment que moi je suis dedans, ça va créer une charge en plus, je vais utiliser plus d'électricité. Tout un tas de questions, 1000 questions. Alors ces gars-là, ils vont commencer à penser, ils auront inventé l'ascenseur shabbatique. Le premier a été fait pour les Hilton. Aujourd'hui, on l'a pas. Ils ont tout simplement. Alors maintenant, je suis allé avec Schindler, on allait visiter Strasbourg, sur la synagogue, ils ont compris, on a téléphoné à Schindler Israël, qui crée des ascenseurs shabbatiques dans tous les grands immeubles aujourd'hui, dans les grands hôtels, et tout simplement, on leur a expliqué la technologie, comment faire d'utiliser la technologie de telle sorte que l'ascenseur s'arrête automatiquement à tous les étages, que les charges sont déjà préprogrammées, etc. Et puis là, vous rentrez dans l'ascenseur, hop, et puis ça marche. Ça va tout seul. Hein? Là, tout ça, c'est pour vous montrer que le monde se développe, la connaissance se développe, la technologie se développe parce que vous avez des gens qui pensent. Mais si comme Madame Hofnung pense que tout le monde veut être à l'usine, alors qui l'a pensé? Oui, je pense que c'est dans une réponse.
Vous sacralisez, le but de la vie, c'est de sacraliser le quotidien. Vous n'avez pas besoin d'interdire la lumière pour apprendre qu'est-ce que c'est la lumière. Par exemple, je prends un verre d'eau, je le bois, et je dis bénédiction avant, j'ai sacralisé mon geste en disant j'ai béni l'eau que Dieu m'a donnée. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait une fois la bénédiction avant, ça suffit maintenant. Déjà fait. Apprendre à sacraliser le quotidien en restant dans le quotidien. On ne demande pas à un juif d'aller comme le Dalai Lama, d'aller là-bas en haut à 3000 mètres et de penser à Dieu. On demande au juif d'être au milieu de Belfort et de penser à Dieu. Dans son business, on lui demande de penser à Dieu en faisant les prix exacts et en ne trompant pas le client. Ça, c'est servir Dieu. Vous voyez? Mais d'aller servir Dieu dans un endroit où il n'y a pas de magasin, c'est trop facile. Ça, c'est ma réponse. Donc, vous pensez le Shabbat, vous pouvez penser le Shabbat, et c'est pas l'interdit, il est parce que j'y arrive, c'est après. Bon, je vais dire maintenant parce que peut-être qu'on n'y arrivera pas. Non, peut-être qu'on n'y arrivera pas parce que c'est seulement dans les réflexions d'après. C'est pas grave, je vous dis, j'ai assez de choses. Le travail interdit le Shabbat a été défini par la loi orale de cette façon. Alors écoutez bien, en fait, je vous remercie d'avoir posé la question parce que je vous explique ce sujet-là. Il y a 39 travaux interdits le Shabbat. Pas 40, pas 38, 39. D'où viennent les 39 travaux interdits le Shabbat? Ce sont tous les corps de métier qui ont participé à l'élaboration et à la construction du tabernacle dans le désert. Tout ce qui a été fait, toute créativité qui a été faite pour la construction des tabernacles, c'est ça les 39 travaux et pas un autre. Je vais vous donner un exemple. Le Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de porter? C'est un des 39. Je n'ai pas apporté que ce qu'il y avait dans les 39 travaux du Shabbat qui est lié au porté, c'est de prendre un objet qui était en dehors du camp, du bois ou des tentures, qu'ils avaient besoin, de l'amener au temple, au tabernacle. Le transport d'un objet d'un domaine à l'autre. C'était dehors et on l'amène hors du camp et on l'amène au tabernacle. De là, le travail créatif de porter le Shabbat
c'est de prendre quel que soit l'objet, jusqu'à une aiguille, de le sortir d'un domaine pour l'amener à un autre domaine. C'est-à-dire, je prends dans la rue une aiguille, une punaise, et je l'amène ici, j'ai enfreint le travail de portée. Par contre, si je prends cette armoire qui est derrière vous, qui pèse 70 kilos, et je la transporte dans la salle ici toute la journée, j'ai rien transgressé. Je me suis juste cassé le dos. Parce que j'ai pas changé de domaine. J'ai pas fait de créativité. J'ai rien créé. Je vous explique comment ça fonctionne. J'ai rien créé. L'aiguille qui était dehors et que j'ai rentré, j'ai créé un nouveau statut dans cette aiguille. L'aiguille était... J'ai pas changé l'aiguille, parce qu'il s'agit de porter, il s'agit pas de changer. On parle pas de fabriquer l'aiguille, c'est une autre affaire. J'ai changé la statue de cette aiguille, elle était dans le domaine public, elle est rentrée dans le domaine privé. Cette armoire que j'ai transportée toute la journée, ici, je lui ai rien fait. C'est toujours la même armoire dans la même pièce. Il n'y a pas de créativité. Je n'ai pas changé le statut de cette armoire. Quand les lois, qu'elle est là, là, ça change rien. Ça ne change pas le statut. On dira toujours l'armoire de la salle de la conférence. Par contre, on dira l'aiguille qui était dehors, il l'a rentrée dedans. Ça, c'est le... Donc le Shabbat, de ça on apprend. Le Shabbat, c'est toute créativité qui est interdite. Donc ça n'a strictement rien à voir, à savoir le jour, la nuit, des trucs comme ça, que apprends à marcher, ça ne fera pas de mal. Vous n'avez qu'à marcher le dimanche, faites votre fête, votre footing le dimanche, ça marchera aussi. Et le Shabbat, il n'est pas là pour apprendre à faire des footing. Le Shabbat, il est là pour se faire vivre le Shabbat. Les aliments. On va le cuire. Vous avez un morceau de viande crue. Vous le faites cuire. Là, j'ai un steak que je peux bien manger, le calabère, frites, hein, bien sûr. Et avant, j'avais un morceau de viande crue. C'est plus la même viande. On est d'accord? Il y a une créativité. J'ai un morceau de tissu, j'ai un fil. J'en fais un tissu. Ben c'est plus du tout l'âge. Oui, donc ça c'est comme ça que ça fonctionne le chemin.
Alors c'est en rapport avec le fait que Dieu s'est arrêté de créer, l'homme doit s'arrêter de créer.
Exactement, on y arrive. Alors là j'y arrive. Alors là j'y arrive tout de suite, c'est exactement ce que j'y arrive. La distinction entre les aspects interdiction et obligation des lois du Shabbat est signalée par Maïmonide dès le début du traité qu'il consacre au Shabbat. Il ne faut pas confondre deux versets, a priori, à première vue semblables. Le septième jour est un Shabbat pour l'Éternel, ton Dieu, tu n'y feras aucun travail. Et de l'autre côté, c'est marqué, six jours tu travailleras, le septième jour tu cesseras. En dépit de leur similitude, ces deux versets doivent être distingués. Le premier est exprimé sous forme négative et énonce un interdit, celui d'effectuer un travail le Shabbat. Le second, au contraire, est exprimé sous forme positive et introduit une obligation de respecter le Shabbat dont le contenu est à définir. On en a parlé il y a quelques instants, on va en parler maintenant. De l'analyse des lois extrêmement précises et détaillées relatives au travail, et j'ai anticipé puisque je vous en ai parlé, il apparaît que l'interdiction shabbatique concerne le travail créatif, intentionnel, réfléchi et réalisé selon une technique habituelle. Ainsi, le Shabbat, c'est vous madame, le Shabbat est le temps où l'homme renonce à son pouvoir de transformation du monde créatif. Par la mise en œuvre de sa pensée, l'homme s'est créé, fabriqué, transformé. Et cette activité est un élément de sa vocation, c'est presque une obligation, comme elle a dit, si on veut planter la terre, il faut savoir, faut tout savoir qui vient jusqu'à ce qu'avant d'être agriculteur. Mais la Torah fixe à l'homme une limite à sa puissance. Là, je vous dis, c'est pas en ne prenant pas l'ascenseur. Prenez l'ascenseur sabbatique et pensez à Dieu. Ça, c'est mieux encore. Mais la Torah fixe une limite à sa puissance. Le Shabbat se définit comme le moment où il est prescrit de renoncer à un pouvoir, tu n'y feras aucun travail. L'homme modifie le monde d'en bas à sa guise et le soumet à sa domination, et la Torah avec le Shabbat, elle vient, elle assigne une limite temporelle à cette souveraineté que l'homme il a sur le monde. Ça va s'arrêter, ça va... Voilà. Ça, c'est l'arrêt de la créativité de l'homme, marque un temps d'arrêt. Vous savez, après, on va parler des vacances. On n'y arrivera pas, je suis à je suis à une heure. Je suis au tiers de ma conférence.
S'il vous plaît, pour le, pendant le Shabbat, le rabbin, la créativité du rabbin, elle s'exerce quand même. Vous, le rabbin a le droit, mais pas les autres.
C'est vrai, c'est quelle créativité? Je donne des cours. Je prie. La créativité, madame, c'est 39 travaux qui me sont interdits. Dans les 39 travaux, il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'étude, il n'y a pas l'étude. L'étude, c'est rentrer dans les 39 travaux. J'étudie le Shabbat, je mange le Shabbat, je prie le Shabbat, je m'amuse avec mes enfants, surtout là, mais on allait au parc ensemble, je m'amuse avec mes enfants le Shabbat, je passe du quality time avec ma femme le Shabbat. Tout ça, c'est rentrer dans les 39 travaux. Par contre, tous les 39 travaux me sont interdits. Alors vous allez me dire, mais vous travaillez le Shabbat, hein, vous êtes, votre salaire mensuel c'est le Shabbat. Alors comment on dit, le salaire mensuel il est aussi les autres jours de la semaine. Alors maintenant vous allez me dire, pour vendredi ça ça, je ne suis pas payé à la journée, je suis payé au Shabbat. Ou au Shabbat, je suis payé au mois. Alors il y a les Shabbats, il y a la semaine. Donc, mais par contre, j'ai aucun travail, aucun des 39 travaux, aucun travail, aucun de ces 39 que je fais le Shabbat.
Il n'y a pas de transformation.
Il n'y a pas de transformation. Si j'essaie d'un petit peu d'en mettre un peu plus dans votre crâne, mais sinon, c'est rigolo, mais pas le vôtre, celui de lui. Quant à la sainteté, au caractère sacré du Shabbat, il le distingue du reste de la semaine profane. Donc c'est quoi le temps profane? Extension, conquête, domination de la nature, maldomination des hommes, et je ne vous parle pas de la Libye, impératif d'action de réalisation croissante, alors si on y arrive, on va parler un petit peu d'esclavage. Accroissement de la richesse, la puissance, tout ça ce sont des catégories des travaux que l'homme pour la semaine. Dieu dit ensuite, remplissez la terre et conquérez-la. Conquérir la terre, c'est quoi conquérir la terre? Alors il y en a différentes façons, il y a conquérir la terre à la Trump, il y a conquérir la terre à la Napoléon, il y a différentes façons de conquérir la terre, n'est-ce pas? Phrase qui peut se comprendre tout à la fois comme un ordre et une bénédiction. Armé de sa pensée, l'homme façonne le monde à sa convenance, convertit la pierre en résidence, la graine brute en nourriture, etc., l'arbre des champs en meubles. Arrive le Shabbat, ça c'est toute la création, arrive le Shabbat avec la sainteté, coup d'arrêt sur l'impérialisme de l'homme sur le monde. Alors c'est quoi la sainteté principale du Shabbat? Renonciation, comme je le répète encore une fois, de son pouvoir de créativité sur le monde. Ce qui est souligné ici est bien différent d'un repos hebdomadaire qui viserait à recouvrer ses forces pour poursuivre le même but. Je dis, j'ai besoin du Shabbat parce que, c'est pas parce que c'est Shabbat, j'ai besoin de Shabbat parce que, encore un Blum. Léon Blum, qui c'est lui qui a mis les vacances obligatoires, n'est-ce pas? Il l'a fait, pourquoi? Parce que un homme qui travaille tout le temps, mais il s'essouffle, il n'arrivera plus, alors on a besoin des vacances, on a besoin des congés, etc. Le Shabbat n'est pas un congé. Le Shabbat n'est pas un moment de moins de travail. Parce que si vous voulez, vous pouvez passer toute votre nuit du Shabbat à étudier la Torah, et ça fatigue aussi, et ça s'appellera pas que vous ayez travaillé. C'est simplement, le Shabbat c'est plus qu'un moment d'arrêt pour se reposer et reprendre des forces pour le lundi. Hein? Alors qu'il devrait constituer un moment où le jeu de l'être est sur... Le Shabbat, c'est...